C'est bon. C'est la première conférence du cycle Histoire des sciences et des techniques au Moyen-Âge que nous organisons depuis de nombreuses années avec le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, qui est représenté ici ce soir par M. Morrison. Cécile Tréfort, s'excusant, ne pouvant être là ce soir. Donc je suis contente à plusieurs titres. D'abord parce que c'est Robert Halleux qui va donner la conférence inaugurale de ce cycle. Et Robert vient chez nous régulièrement, tous les deux ans, et il accepte toujours de venir sur des sujets très divers. La dernière conférence que tu as donnée ici, c'était dans le cadre du stage UFM, que nous organisons en partenariat avec l'UFM stage d'histoire des sciences et des techniques, pardon, que nous organisons en partenariat avec l'UFM. Et quand les stagiaires sont partis, ils m'ont dit: oh là là, quel bonhomme, quel savant tu as invité, Anne. Bon, le stage est supprimé pour des raisons financières. Hein, donc, le rectorat a supprimé ce stage. C'est triste. Enfin, Robert, tu sais ce que c'est très bien, que l'histoire des sciences et des techniques et le militantisme qui est le tien et celui qui est le nôtre aussi. Et quand on voit qu'un stage est supprimé dans le cadre d'un enseignement, d'un stage de formation du secondaire, on est un peu triste de tout ça. Mais enfin, il y a encore des gens pour faire de l'histoire des sciences et pour la faire merveilleusement. Donc, merci beaucoup encore, Robert, d'être là. Puis merci à vous qui avez bravé la neige. Il y a eu des coups de fil depuis ce matin. On me dit, est-ce que la conférence a lieu? Mais bien sûr, la conférence a lieu. On n'a jamais vu un Belge qui ne vienne pas donner une conférence en temps de neige. Ça m'a pas posé de problème, mais à Robert non plus. Donc, Robert Halleux est directeur de recherche au Fonds national belge de la recherche scientifique et professeur à l'Université de Liège, où tu diriges le Centre d'histoire des sciences et des techniques. Donc, tu es membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres de l'Institut de France et tu viens d'être nommé à l'Académie royale de Belgique. Donc, session sciences et techniques, si je ne me trompe pas, comme tu viens de me le dire, j'ai peut-être oublié. C'est l'émotion. Et tu étudies les rapports entre sciences, techniques, industrie et société dans la longue durée, de l'Antiquité à la Révolution industrielle. Bon, ce qui est vraiment exceptionnel. Bon, les gens, ils travaillent quelquefois sur des périodes. Toi, tu brasses des périodes immenses. Tu as consacré de nombreux travaux à l'histoire de la métallurgie, des mines, de l'alchimie, des machines, mais aussi des théories de la matière et des politiques scientifiques. Donc, diverses publications, les livres La science classique, le dictionnaire de la science classique avec Michel Blais, et Dictionnaire critique, Michel Blais, et Coquerille, deux siècles de technologie, édition du Perron 2001, La monumentale histoire des sciences en Belgique, en 3 volumes. Et en effet, si vous voulez écouter les conférences de Robert Halleux, d'une part, vous pouvez les écouter sur notre site, mais aussi sur le site de France Culture, où tu as été invité l'année dernière, j'ai beaucoup ri, avec Michel Blais, quand on connaît les deux personnages, je vous avoue franchement que ça vaut le détour, lors de l'émission du jeudi à 14h, hein, avec Aurélie Luneau. Voilà, j'espère avoir tout dit et pas assez, de toute façon, comme d'habitude, en présentant notre ami Robert. Et je te remercie infiniment, parce que ça fait longtemps que ce sujet me travaillait, de nous parler ce soir pendant 45 minutes d'un grand monsieur qui s'intéressait aussi à l'alchimie, d'après ce que j'ai compris, entre autres, et qui s'appelle Albert le Grand, naturaliste, les faits et l'affichier. Merci beaucoup, Robert Halleux.
Merci, Anne. Je voudrais d'abord vous remercier tous d'avoir bravé la neige. À l'exemple de l'homme dont je vais vous parler aujourd'hui, ce dominicain qui, pendant près d'un siècle, a parcouru l'Europe à pied en ramassant des cailloux, des plantes, en observant les animaux, en visitant les mines, en s'intéressant à tout. Si vous vous intéressez à la chasse à la baleine, il ne faut pas lire Moby Dick. Il faut lire le chapitre sur les baleines dans le traité des animaux d'Albert le Grand. Tout y est, même la forme des harpons. Si vous vous intéressez au travail des orpailleurs qui lavent le sable pour trouver de l'or, il ne faut pas lire Jack London, il faut lire le traité des minéraux de Saint Albert le Grand qui vous décrit les orpailleurs qui travaillent le long du Rhin. Et si, comme tout un chacun, vous vous intéressez à la chose, vous trouverez chez Albert le Grand une description très précise et très indulgente, ma foi, des pratiques sexuelles les plus diverses. On trouve tout chez Albert le Grand. Il en va de lui comme de Pline l'Ancien. À force de le consulter et d'en tirer des fiches, on oublie qui il était. Et quand on cherche le personnage, on se trouve devant une série d'ambiguïtés. Il y a à peu près un siècle, dans nos campagnes, les colporteurs vendaient un ouvrage qui s'intitulait « Les admirables secrets du grand Albert », complété souvent d'un autre ouvrage qui s'appelait « Le petit Albert ». Que trouvait-on dans ce grand Albert ? Un traité de gynécologie empirique sur les secrets des femmes, un traité sur les propriétés médico-magiques des plantes, des pierres, des animaux, un traité des talismans intitulé « Sur les merveilles du monde » et un certain nombre de recettes pour les sujets les plus divers. Cet ouvrage, prétendument publié à Lyon depuis le XVIe siècle chez les frères Beringhaus, a eu un succès considérable dans la littérature de colportage. Il y en a eu plusieurs dizaines et plus d'une centaine d'éditions qui ne sont pas encore à ce jour recensées. D'autre part, depuis 1931, Albert le Grand est docteur de l'Église. Et le 16 décembre 1941, le pape Pie XII il a été canonisé et le pape Pie XII a fait de lui le patron des scientifiques chrétiens. En pleine Deuxième Guerre mondiale, ce geste ne manquait pas de signification. Et la lettre que Pie XII adresse à ce moment, en allemand, au général des Dominicains, au supérieur général des Dominicains, précise les raisons pour lesquelles il a choisi Albert le Grand. D'abord parce qu'il était un précurseur de la science moderne, ensuite parce qu'il a banni la double vérité, considérant qu'il y avait une seule vérité dans la foi et dans la science, et enfin parce qu'il a voulu partir de la science terrestre pour s'élever aux choses célestes. Il fallait là, tout à la fois, fortifier les catholiques allemands, il fallait réaffirmer les droits d'une science chrétienne face à l'athéisme, et il fallait surtout montrer que les scientifiques pouvaient rester chrétiens face aux dérives de la science nazie, de la Deutsche Physik ou de la Deutsche Biologie. Donc on le voit, c'est un personnage bien ambigu que nous allons étudier aujourd'hui et nous allons procéder en trois phases. D'abord, je vais esquisser brièvement sa carrière et le mouvement de l'érudition sur son œuvre scientifique. Dans un deuxième temps, nous allons parler de son projet et de sa méthode. Et dans un troisième temps, nous allons voir comment certains de ces textes, et particulièrement ces fichiers de documentation, ont connu une destinée parfaitement erratique pour finir dans la culture populaire. Parlons d'abord, brièvement, de la carrière d'Albert le Grand. Albert est né entre 1190 et 1200 à Lowingen, en Souabe, sur le bord du Danube, d'une famille de petite noblesse. En 1223, il entre chez les Dominicains. Il sera très vite professeur de théologie à Paris, où il aura comme élève saint Thomas d'Aquin. Il reste de lui la place Maubert, métro Maubert Mutualité, Maubert et Maître Albert, et une petite rue tout près qui s'appelle la rue Maître Albert, qui a gardé son souvenir. Ensuite, il est professeur à Cologne, de 1248 à 1254, de 1257 à 1260. Ensuite, provincial d'Allemagne, responsable de la province d'Allemagne de l'ordre de Dominicains, 1254 à 1257. Il remplit des missions pour la curie sous Alexandre IV, sous Urbain IV, est détaché de son ordre pour devenir évêque de Ratisbonne, Regensburg, 1260-1261, prédicateur de la croisade en Allemagne et en Bohême, 1263-1264. Dans les années suivantes, on le trouve à Würzburg, on le trouve à Cologne, on le trouve à Strasbourg, de 1264 à 1270. À l'âge de 70 ans bien passés, il se retire dans la maison dominicaine de Cologne où il continue à travailler jusqu'à l'âge de 80 et quelques et il meurt en 1280. Ce qui frappe dans la vie de ce personnage, c'est, dont on connaît une chronologie bien plus précise, ce sont ses pérégrinations incessantes qui le conduisent de Rome à Riga et de Montpellier, n'est-ce pas, à Varsovie. Il a vu toute l'Europe, il a parcouru toute l'Europe à pied. Il a vu tout ce qui pouvait se voir, il a lu tout ce qui pouvait se lire, et il a expérimenté tout ce qui pouvait s'expérimenter. L'érudition, notre connaissance d'Albert le Grand est encore très imprécise. Dans le domaine théologique, on a beaucoup travaillé. C'est par la théologie qu'ont la nouvelle édition critique des œuvres d'Albert le Grand a commencé à l'Albertus Magnus Institute à Cologne. En revanche, pour les œuvres scientifiques, on est plus mal loti. Pour l'ensemble de l'œuvre, on dispose d'une édition incomplète faite par les dominicains, le dominicain Jamy, en 1651, et on dispose des 38 volumes faits par les frères Borgnet, Auguste et Émile, dans les années 1890. Donc nous sommes là devant une œuvre qui compte 38 volumes et plusieurs dizaines de milliers de pages. Trois écrits sont principaux dans l'œuvre d'Albert, le traité des minéraux, le traité des végétaux, le traité des animaux. Pour le traité des minéraux, nous n'avons pas d'édition critique, mais nous avons une excellente traduction anglaise par Madame Dorothy Wyckoff, qui était professeure de géologie. Pour le traité des animaux, des végétaux, nous avons une très bonne édition par deux botanistes, Meyer et Jessen, au XIXe siècle. Et pour le traité des animaux, nous sommes dans une situation nettement plus favorable, puisque nous avons l'autographe d'Albert conservé à Cologne, qui a fait l'objet d'une édition critique par Hermann Stadler dans les Beiträge, n'est-ce pas, de Beunker dans les Beiträge zur Geschichte der Philosophie de Mittelalter, par Hermann Stadler. Bien, c'est donc sur cette base qu'il nous faut travailler. L'érudition sur ces textes est très diverse. Il y a eu un grand mouvement d'études autour d'Albert le Grand, aux alentours de son septième centenaire de sa mort en 1280. Il y a eu plusieurs colloques, plusieurs recueils d'études, un certain nombre d'articles. Et depuis lors, il faut dire que la recherche a marqué le pas. On s'est bien plus intéressé aux encyclopédistes qui le précèdent, comme Barthélemy Langlais, avec toute l'équipe qui travaille autour de Mme Christine Meyer à Münster, de Mme Joël Ducot, n'est-ce pas, de M. Bernard Ribémont à Paris et à Orléans. On a beaucoup travaillé sur Vincent de Beauvais avec l'atelier de Nancy. Et on a travaillé pas mal sur Thomas de Quentin-Pré, avec toujours l'école de Münster, les travaux de Baudouin van den Abel. Quant à Albert lui-même, on a finalement fait peu de choses. On dispose récemment d'une édition de son traité des faucons, qui est un extrait du traité des animaux, fait par Baudouin van den Abel. Et on dispose d'une très intéressante et très curieuse édition d'un écrit apocryphe, dont je vous reparlerai tout à l'heure, le traité des vertus des herbes, des animaux et des pierres. Bien. Donc, c'est un homme sur lequel il y a beaucoup à faire et dont il convient d'abord de comprendre le projet. Albert dit, au début de sa physique, que c'est de son commentaire à la physique d'Aristote que c'est à la demande de ses frères qu'il a entrepris, pour leur expliquer, pour les introduire aux études, qu'il a entrepris une introduction à la philosophie naturelle dans l'esprit d'Aristote. En réalité, ce projet initial est devenu l'équivalent du projet d'Aristote lui-même. Aristote, que l'on considère toujours comme un philosophe, est d'abord un naturaliste. C'est un homme qui a donné la première description scientifique, systématique, organisée du monde tout entier. Il a construit un modèle cohérent, totalitaire, majestueux. Et je dirais que l'Europe ne s'est pas encore remise de son effondrement. Aristote commence par un traité de la physique. Albert va suivre l'ordre, n'est-ce pas, des écrits aristotéliciens. Aristote commence par un traité de la physique, où il explique les principes généraux du mouvement et du repos. Ensuite, il applique ces principes au corps céleste, où les mouvements sont uniformes. C'est le déchelon. Ensuite, il passe du monde qui est au-dessus de la sphère de la Lune à ce qui se trouve sous la sphère de la Lune, c'est-à-dire le monde sublunaire, qui est le monde non pas de la constance et de la régularité, mais du changement. Et il va donc expliquer, dans ce monde sublunaire, les principes du changement, de l'altération des êtres, et c'est ce qu'il appelle le traité de la génération et de la corruption. Qu'est-ce qui fait que les substances changent? Qu'est-ce qui explique que les corps brûlent, que les corps fondent, etc. À la suite du traité de la génération et de la corruption, Aristote applique ce modèle à l'ensemble des phénomènes que nous appellerions aujourd'hui la géophysique, c'est-à-dire ce qui se passe sous terre, sur terre et dans l'atmosphère. C'est le but du traité appelé les météorologiques. Dans la ligne de la géophysique, il écrit tout naturellement un traité sur les minéraux. C'est la minéralogie. À partir de ce moment, l'étude du monde matériel doit prendre en compte un nouvel élément, qui est l'âme. N'oublions pas que pour Aristote, il y a trois âmes. L'âme végétative, caractérisée par les fonctions de croissance et de nutrition. L'âme sensitive ou volitive ou désirante, caractérisée par le désir et donc avec les fonctions de nutrition, de mouvement, de reproduction, et enfin l'âme raisonnable, caractéristique de l'homme. Aristote écrit donc d'abord un traité de l'âme, c'est le De Anima, et ensuite un traité des végétaux, caractérisé par l'âme végétative, un traité des animaux, pour terminer par l'étude de l'homme. Il y a donc là une vision d'ensemble de l'homme et de l'univers. Quel est le projet d'Albert le Grand? C'est de faire la même chose, de comprendre Aristote en le paraphrasant, mais aussi de le remettre en accord avec le monde tel que qu'on le décrit et tel qu'on le voit de son temps. Il va donc s'efforcer non seulement de comprendre la pensée du stagirite, mais de la développer, de l'appliquer en multipliant les exemples. C'est ici qu'interviennent, dans l'œuvre d'Albert, ce qui en fait le principal attrait, les faits, les fiches et les observations. À l'appui, dirions-nous, de chaque phrase du stagirite, on trouve des citations, des extraits de lecture et des observations. Et si on regarde ces observations, on s'aperçoit qu'elles sont toujours faites sur le même canevas. Cela a été observé où? À Venise, à Riga, à Lübeck, à Liège pour les mines de charbon, à Namur pour la reproduction des chevaux, à Cologne pour la fabrication du laiton. Observé par qui? Par lui-même ou par ses soquilles. Et ici, il y a une chose intéressante, c'est qu'Albert est à la tête d'une véritable équipe de documentation. Ses frères dominicains, ses secrétaires, l'approvisionnent en observations et en fiches de lecture. Et cette notion de fichier est ici capitale. Et donc, il y a là une masse de faits par lesquels Albert s'efforce de compléter, d'enrichir, d'intégrer, de faire coller l'œuvre d'Aristote avec le monde de son temps. On pourrait dire que si son disciple saint Thomas d'Aquin s'est donné pour tâche de christianiser Aristote, Albert s'est donné pour tâche de lui faire rejoindre la nature des choses. Et donc ici, il a entrepris de compléter de compléter l'œuvre du stagirite, et ce n'était pas une tâche aisée. Et j'en viens maintenant à mon deuxième point, qui est d'analyser la méthode d'Albert et la façon dont il travaille. Je vais me centrer ici sur trois traités. Le traité des animaux, le traité des plantes et le traité des minéraux. Ce sont trois cas différents. Dans le premier cas, Albert a devant lui un traité aristotélicien complet. C'est le cas du De Animalibus. Dans le deuxième cas, il a un modèle aristotélicien extrêmement défectueux. C'est le cas du De Vegetabilibus, le traité des plantes, ou des plantis comme on voudra. Dans le troisième cas, il n'a pas de modèle aristotélicien du tout, et c'est le cas du traité des minéraux. Il est clair que l'articulation de la théorie, c'est-à-dire de l'aristotélisme qui lui fournit son canevas de base, et des faits et des fiches, est très différent dans les trois cas. Premier cas, Albert dispose d'un modèle aristotélicien complet. Vous savez que l'histoire de l'aristotélisme est longue et compliquée. L'œuvre d'Aristote elle-même a connu toutes sortes de vicissitudes, il y a eu des fiches dispersées, il y a eu des livres perdus. Bref, il existe, à la fin de l'Antiquité, un corpus constitué, dans l'ordre que je vous ai dit, qui rassemble un certain nombre d'œuvres authentiques ou issues de son école. C'est ce corpus qui va être traduit en arabe, généralement en syriaque, en partie en syriaque, mais surtout en arabe, aux alentours de 800. Et à partir des années 1120, on va assister à un des phénomènes majeurs de la culture européenne, le retour de l'œuvre d'Aristote en Occident, enrichi par ses commentateurs arabes. Et donc, c'est sur ce corpus, héritier d'une longue tradition, qu'Albert le Grand va travailler. En ce qui concerne d'abord le plus beau des cas, qui est le cas des... Je dirais autre chose avant, pour que nous comprenions bien. Albert, n'est-ce pas, a souvent... Je vous ai expliqué quel est son profil scientifique. Il s'agit d'actualiser ce corpus aristotélicien, d'y ajouter des faits, de le mettre en raccord avec la nature. On a souvent dit qu'Albert le Grand était un encyclopédiste et on l'a mis sur le même pied que les encyclopédistes contemporains, Vincent de Beauvais, Thomas de Quentin-Pré, Barthélemy Langlais. En réalité, c'est une précaution qu'il faut prendre d'abord, c'est que chez Albert, les faits ne serviront, dans tous ces cas, que d'illustration et d'été à la théorie. Il n'est pas encyclopédiste et il le répétera sans arrêt. Je cite un certain nombre de textes. Il dit, par exemple, au début des minéraux, Scientia enim naturalis non est simpliciter narrata accipere, sed in rebus naturalibus inquirere causas. Donc, la science naturelle n'est pas simplement de rapporter ce qui a été raconté, mais de chercher les causes dans les choses naturelles. Au traité des végétaux, qui passe pour une accumulation de faits, qui passe par le plus beau traité, passe pour le plus beau traité de taxonomie, n'est-ce pas? Il dit De particularibus enim philosophiae esse non poterit. Sur les choses particulières, ce n'est pas le domaine de la philosophie. Nous allons donner les propriétés de toutes les plantes, mais elles sont là pour satisfaire beaucoup plus à la curiositas des lecteurs qu'à la philosophie. Or, le mot « curiositas » à cette époque est un mot péjoratif. Il ne deviendra positif, il ne deviendra laudatif qu'à la Renaissance. Le mot curiositas désigne la vaine curiosité, se mêler de ce qui ne vous regarde pas. Et je peux continuer les exemples de ce genre. Donc, il y a, c'est avec cette méthode inquirere causas qu'il s'attaque aux différents cas dont nous avons, dont je vais vous donner, que je vais maintenant vous analyser. L'histoire des animaux. Vous savez qu'Aristote a écrit 3 livres sur les animaux. Il a écrit un ouvrage sur l'histoire des animaux. N'oubliez pas que historia en grec signifie recherche, n'est-ce pas ? Recherche sur les animaux. Il a écrit un livre sur les parties des animaux et un livre sur le mouvement des animaux. Ces ouvrages ont été traduits en arabe par Yahya ibn Bitrik et ils ont été remis en latin aux alentours de 1200 par un personnage important qui est Michel Scott. Albert travaille donc sur la traduction de Michel Scott qui a traduit l'ensemble des livres d'Aristote bout à bout. Il y a 10 livres pour l'histoire des animaux, 5 pour les parties des animaux et 4 pour la génération, donc ça fait un total de 19 livres. Albert a commenté les 19 livres. Ces 19 livres, comme toute l'histoire naturelle d'Aristote, posent un principal problème qui est l'identification des animaux eux-mêmes. Il y a des problèmes de terminologie. Les descriptions d'Aristote ne sont pas toujours claires. Et souvent, nous ne savons pas de quel animal il s'agit. Les lexicographes, les philologues lexicographes du grec et du latin ont fait de grands travaux sur l'identification des plantes, sur les, bien sûr des plantes, mais surtout sur l'identification des poissons et des oiseaux chez Aristote. Imaginez maintenant que cette terminologie, grecque a été mise en arabe, remise de l'arabe en latin. Cela implique que des noms ont changé d'animal et des animaux ont changé de nom. Il y a donc un effort terminologique considérable à faire. Pour résoudre cette question, pour développer Aristote, quels sont les moyens, quelles sont les sources que Albert a à sa disposition ? Il a à sa disposition des sources qui sont totalement inadéquates. Des sources inadéquates, il a essentiellement Pline l'Ancien et un abréviateur de Pline l'Ancien du IVe siècle que l'on appelle Solin. Caius Julius Solinus. Or, il y a une différence fondamentale entre la méthode de Pline l'Ancien, qui nous a, préservé tout un trésor de sciences romaines et alexandrines, et la méthode d'Aristote et d'Albert le Grand. Je dirais que Aristote et Albert sont analogistes, tandis que Pline l'Ancien est anomaliste. Cette distinction qui remonte au grammairien reflète deux attitudes face à la diversité des choses. Albert et Aristote veulent mettre de l'ordre, ils veulent classer, ils veulent dégager ce qui est commun, de manière à reconnaître l'ordre de la nature. Pline l'Ancien, tout au contraire, privilège ce qui est rare, étonnant, hors norme, saugrenu, invraisemblable, une tendance que Solin accentue encore. Il y a donc chez Albert le Grand une attitude de méfiance radicale vis-à-vis de Pline et de Solin. Il dit « Ils écoutent plutôt la rumeur du petit peuple plutôt que de donner les preuves de ce qu'ils racontent. » Parlant de Solin et d'un autre livre sur les animaux, il dit « Ces philosophes s'adonnent à la falsification » et je suspecte ce fait comme une de leurs fraudes. Il y a chez Albert une attitude extrêmement critique vis-à-vis de sa documentation. Les faits ne sont pas pris pour eux-mêmes, ils sont critiqués systématiquement quant à leur vraisemblance, leur valeur de vérité et leur compatibilité avec le schéma général de la doctrine aristotélicienne. Il y a donc là, c'est le premier type de source. Le deuxième type de source qui est abondant, ce sont des traités de médecine vétérinaire. Traités de médecine vétérinaire, dont ce traité de médecine des faucons, récemment édité par Baudouin van den Abeele, ce sont des traités purement pratiques Ce sont des recettes, mais qui peuvent apporter quelques éléments sur la description physique des animaux eux-mêmes. Et donc, c'est avec ces matériaux ingrats que Albert entreprend, en 26 livres, de repenser la zoologie aristotélicienne. Et comment procède-t-il ? Il procède en injectant dans son exposé des digressiones, qui sont des réflexions de son cru, où, partant d'une base aristotélicienne, il pose des problèmes qu'Aristote n'a pas posés. Par exemple, les questions de croissance, les questions de génération des animaux, la question de l'échelle de perfection entre les animaux, la question de l'acclimatation et de la différence entre les animaux sauvages et les animaux domestiques. Il y a donc là toute une réflexion personnelle dont le canevas est aristotélicien, dont la structure est conforme à l'idée aux idées d'Aristote, mais dont les matériaux sont parfaitement nouveaux, puisés aux lectures, puisés aux observations. Il faut lire, par exemple, ce qu'il écrit sur l'élevage des chevaux pour voir comment il intègre, dans une perspective générale, les acquisitions empiriques des éleveurs et des sélectionneurs. Et il va plus loin, en s'efforçant de trouver une classification des animaux qui nous paraît aujourd'hui bien fruste, mais il s'agit maintenant de mettre de l'ordre dans les matériaux, et il choisit simplement comme critère leur mode de progression. Il y a des animaux qui marchent, gressabilia, c'est-à-dire les quadrupèdes, n'est-ce pas, certains bipèdes, l'homme. Il y a ceux qui volent, volatilia, ceux qui nagent, natatilia, ceux qui rampent, serpentia, plus tout ce grouillement d'insectes qu'il appelle vermes. Et c'est sur cette base qu'il donne dans les derniers livres, dans les livres 22 à 26 qui sont purement descriptifs, des son fichier, qui sont des notes extrêmement précises, extrêmement critiques, où il combine, dans une description qui n'aura d'égal que celle de Buffon après lui, il combine la connaissance livresque et les observations personnelles et livrées par ses socquilles. On le voit, les faits sont criblés, soigneusement dosés et intégrés au canevas général de l'aristotélisme. Ceci est le premier cas. C'est le cas le plus favorable. Le deuxième cas est bien plus compliqué. C'est le cas où il a un modèle aristotélicien extrêmement défectueux à commenter. Et là, c'est le cas du traité d'Albert sur les végétaux, des Vegetabilibus, qui est censé commenter un traité aristotélicien appelé De Plantis. Or, si l'on regarde les fragments d'Aristote publiés par Valentin Rose et les listes anciennes d'ouvrages d'Aristote, Aristote n'a pas écrit sur les plantes. Il a laissé ce travail à son disciple Théophraste, dont l'œuvre ne fut pas connue au Moyen-Âge et ne fut connue qu'à la Renaissance. Qu'est-ce donc que ce De Plantis transmis sous le nom d'Aristote? C'est un traité du naturaliste du 1er siècle de notre ère, Nicolas de Dama, en Syrie, un familier du méchant roi Hérode, dont on ne sait plus guère qu'une chose en botanique, c'est que c'est la première description de la date, elle remonte à Nicolas de Dama. Quel est ce traité? C'est un tout petit traité en deux livres, dont le premier traite de la vie des plantes et de leur âme et de la diversité des plantes, et le deuxième des parties communes aux différentes plantes. Mais ce sont deux livres très courts, puisqu'ils ne comptent chacun qu'une petite dizaine de chapitres extrêmement condensés. Il s'agit donc là d'un résumé de la pensée aristotélicienne, où il est très difficile de voir ce qui est d'Aristote et ce qui est de Nicolas de Dama lui-même. De surcroît, le texte original, grec original, est perdu. Il a été traduit en arabe, dont il reste des fragments en arabe. Il a été remis de l'arabe en latin aux alentours de 1200, par un des traducteurs les plus importants, que l'on appelle Alfred l'Anglais, c'est-à-dire Alfred de Sarresel, et si l'on trouve, donc on ne possède que le latin, un latin très difficile et qui est très mal traduit, et donc ici, si l'on trouve dans le micro, et si l'on trouve dans les œuvres d'Aristote aujourd'hui une version grecque de ce traité, c'est une retraduction faite sur le latin par les humanistes de la Renaissance qui se sont efforcés de reconstituer le texte grec originel. Donc, il s'agit ici d'un modèle aristotélicien extrêmement lacunaire et Albert se trouve devant une difficulté supplémentaire. Que va-t-il faire ? Il va transformer cet opuscule de 2 livres en ouvrage de 7 livres. Le livre 1 et le livre 4 sont une paraphrase ad verbum, mot à mot, du texte pseudo-aristotélicien. Les livres 2, 3 et 5 sont des digressiones où il s'efforce de repenser, de réorganiser le texte ad mentem aristotélis, c'est-à-dire selon les principes de l'aristotélisme. Mettons, pour ne pas accuser Aristote, n'est-ce pas, il met en cause le traducteur et les faiblesses de la tradition manuscrite, il se donne pour tâche de paraphraser Aristote, de reconstituer ce qu'Aristote a voulu dire et de donner enfin un catalogue des plantes individuelles et des propriétés des plantes cultivées. Pour faire cela, il a à sa disposition, là encore, une littérature contemporaine extrêmement peu adéquate. La littérature qu'il a à sa disposition est la littérature des herbiers. Qu'est-ce qu'un herbier au Moyen-Âge ? Un herbier, c'est un traité des simples. C'est-à-dire, c'est une description de toutes les substances végétales, minérales et animales utilisées pour fabriquer des remèdes. On vous décrit la plante, ses vertus, ses falsifications éventuelles, les maladies qu'elle décrit et comment la préparer pour la mettre dans les remèdes. C'est donc le manuel de l'apothicaire. Donc, ces herbiers sont relativement peu utiles pour une description de la nature fondée sur la recherche des causes. En revanche, ils présentent un avantage, c'est que la plupart d'entre eux sont inspirés de Dioscoride, du médecin grec Dioscoride du 1er siècle, et de Galien au 2e siècle, qui... qui ont au moins, avec Aristote en commun, l'idée, la théorie de base des 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, qui constituent à la fois le corps humain et les substances médicinales. D'autre part, Albert a à sa disposition une solide littérature agronomique. Il dispose de tout l'héritage des agronomes latins, donc Varron, Caton, Columel, Palladius, qu'il intègre au moins dans sa description des plantes cultivées. Comment reconstruit-il l'ouvrage Ad mentem Aristotelis ? Eh bien, il va diviser en un certain nombre de questions fondamentales telles qu'Aristote aurait pu les poser. Par exemple, les plantes ont-elles une âme ? Oui, l'âme végétative. Quelles sont les caractéristiques de l'âme des plantes ? C'est-à-dire nutrition, croissance, sensation. C'est une question qu'on se pose encore aujourd'hui. Les plantes peuvent-elles sentir ? Eh bien, Albert se pose la question. Les plantes peuvent-elles désirer ? Et il évoque le cas des plantes carnivores. Y a-t-il des plantes mâles et femelles ? Il se pose le problème bien avant l'inné. Il y a des plantes plus parfaites et des plantes moins parfaites. Y a-t-il une échelle de perfection entre les plantes, depuis les champignons, n'est-ce pas, jusqu'aux végétaux les plus élaborés? Et enfin, quel est, et c'est un de ses problèmes majeurs qui lui permet d'intégrer l'agronomie, quelle est la différence entre une plante domestique et une plante sauvage? Il y a des espèces domestiques qui doivent devenir des plantes ruderales et des plantes sauvages, et il y a des plantes sauvages qui sont acclimatées. Comment le milieu influence-t-il la physiologie de la plante? Ce sont les questions qui se posent là-bas. Et dans le livre 5, il va plus loin, en s'efforçant de construire une véritable physiologie végétale, étayée de nombreux exemples, une physiologie végétale qui se fonde sur une masse, sur le qui garde le canevas aristotélicien, et qui se fonde sur une masse d'observations simples. Question, les plantes dorment-elles? Oui, certaines d'entre elles peuvent se fermer lorsque certaines fleurs se ferment lorsque le soleil se couche. Mais s'agit-il véritablement d'un sommeil ou s'agit-il simplement d'une influence du froid du soir? Et il fait de la même manière des expériences pour voir si c'est le froid, si c'est l'obscurité, si c'est le crépuscule qui provoque la fermeture fermeture des fleurs. Mais nous avons ici le début de ce qui pourrait s'appeler une démarche expérimentale. Il y a beaucoup de débats sur la notion d'expérience au Moyen-Âge. Comme vous le savez, une expérience au sens moderne consiste à provoquer une observation pour vérifier si une théorie est valable. On fait une hypothèse et puis on provoque une observation pour voir si cette hypothèse est valable. Albert procède à diverses expériences en biologie, en botanique et aussi en zoologie. Par exemple, il procède à l'autopsie d'une taupe pour voir si, comme le dit la tradition, la taupe est aveugle. Donc il y a là un début de, nous ne dirions pas encore d'expérience, mais d'observation provoquée. Bref, ici, on le voit, il y a une reconstruction ad mentem étayée sur une lecture sélective d'une littérature non aristotélicienne dont on prélève des matériaux et sur une masse d'expériences et d'observations, notamment d'observations agronomiques. J'en viens à mon troisième cas, le cas où il n'y a pas de modèle aristotélicien du tout. C'est le cas des minéraux. Je vous ai dit que dans le grand projet d'Aristote, les météorologiques étaient en réalité un traité de géophysique qui décrit tout ce qui se fait dans l'atmosphère, mais aussi tout ce qui se fait sur Terre et sous Terre, notamment les volcans, les tremblements de terre et la génération des minéraux. À la fin du livre 3 des météorologiques, Aristote promettait de donner un traité complet sur la génération et la classification des minéraux. Il ne l'a pas fait. Ce travail a été réalisé par son disciple Théophraste dans son traité des pierres et son traité des métaux qui n'ont pas été connus au Moyen-Âge. Les commentateurs d'Aristote se sont très tôt aperçus qu'il y avait là une lacune et ils se sont efforcés de la combler. Chez les Arabes, Avicenne a complété Aristote par un traité spécial dans son commentaire, le livre du remède qu'on appelle le Kitab al-Shifa, peu importe. Aristote, arabe, a été traduit en latin par Gérard de Crémone, les trois premiers livres. Et à la fin des trois premiers livres, le même traducteur, Alfred Langlais, Alfred de Sarrecel, pour compléter les météorologiques d'Aristote, a ajouté 3 chapitres puisés au traité d'Avicenne sous le titre De congelazione et conglutinazione lapidum, c'est-à-dire sur la solidification et la compacité des pierres. Ce sont 3 traités, trois chapitres courts, qui ne sont pas d'Aristote, qui viennent d'Avicenne, mais qui vont être ajoutés à la traduction latine d'Aristote et qui, jusqu'au XVIe siècle, vont passer pour représenter la pensée authentique d'Aristote. Albert se trouve donc ici, non pas devant un traité des pierres, mais devant les grandes lignes, une structure générale de la minéralogie, qui se trouve en appendice au météorologique. Albert a entendu parler d'un lapidaire d'Aristote. Il a entendu dire qu'il circule un lapidaire d'Aristote, donc un traité des pierres d'Aristote. Nous savons aujourd'hui que ce lapidaire d'Aristote a existé, nous en avons un manuscrit à Liège, que c'est un apocryphe issu des écoles arabes, issu des écoles médicales de Syrie et de Perse, et que c'est en fait un lapidaire de pierre magique. Mais Albert ne le connaît pas, et donc il dit, comme je n'ai pas pu trouver le traité des pierres d'Aristote, eh bien, j'ai dû le compléter par d'autres lectures. Et là, il le complète à la fois par des observations, par la lecture exhaustive d'une littérature non aristotélicienne et par un large recours à la littérature alchimique. Regardons d'un peu plus près ce traité, puisqu'ici nous ne sommes pas dans un commentaire, nous sommes dans une œuvre où Albert a été, par la force des choses et par les lacunes de sa documentation, il a été forcé de créer une œuvre originale. Le traité des minéraux se décompose en 5 livres. Le premier traite des pierres. Le deuxième, des pierres précieuses. Le troisième, des métaux en général. Le quatrième, de chaque métal en particulier. Et le cinquième, de matières inclassables, qui ne sont ni pierres ni métal, c'est-à-dire essentiellement des sels, des substances liquéfiables ou solubles, comme la soude, le natron, la lin, le sel, etc. Regardons ces 5 livres et voyons comment Albert travaille. Livre 1, Aristote n'a rien dit au sujet de la manière dont les pierres sont nées, mais il a développé la théorie des 4 éléments et Avicenne, dans ce petit traité De congelazione lapidum, a expliqué que les pierres sont faites de terre et d'eau. Vous savez qu'il y a pour Aristote 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Les pierres sont faites de terre et d'eau. Si l'eau domine, nous aurons une pierre transparente. Si la terre domine, nous aurons une pierre opaque. Ça, c'est pour la cause matérielle. Albert applique scrupuleusement ici le schéma aristotélicien des 4 causes, n'est-ce pas ? La cause matérielle, la cause efficiente, c'est-à-dire ce qui est l'agent qui l'a causé, la cause formelle, ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est, et la cause finale. Et donc, ici, quelle est la cause matérielle des pierres ? C'est la terre et l'eau. Toutes les pierres sont constituées de terre, et d'eau. Quelle est la cause efficiente ? Eh bien, il explique qu'il y a dans certains lieux une force minéralisante, c'est-à-dire un pouvoir de transformer des matières organiques ou de en pierre et qu'elle utilise soit le chaud, soit le froid. Si la terre prédomine, eh bien ce sera le chaud qui chassera le liquide excédentaire. Si l'eau prédomine, c'est le froid qui la congèlera, les deux étant l'instrument de la force minéralisante. Et je cite à ce propos une très jolie fiche qui nous raconte et qui vous montre à la fois les lacunes de son information. Un jour, dit-il, lorsque j'étais jeune, sur la mer de Danemark, donc sur la Baltique, près de la ville de Lübeck, j'ai vu une grosse branche d'arbre sur laquelle il y avait un nid d'oiseaux et de petits oiseaux dans le nid. Et tout cela était transformé en pierre qui tirait sur le rouge. Et cela n'a pu se faire que d'une seule manière, que les tempêtes ou les vagues ont arraché une branche d'arbre au moment où était le nid. Les oiseaux sont tombés dans l'eau et ensuite, en vertu de la force minéralisante du lieu où ils étaient déposés, ils ont été pétrifiés. On le voit, il y a ici une fiche qui est interprétée à la lumière du canevas avicennien. Beaucoup d'autres cas pourraient être cités. Les cas y expliquent notamment la formation de pierres dans le ciel par les météorites. Et bref, il y a là une explication dans le cadre de la théorie d'Aristote. Le livre 2 est plus compliqué, car ici, il s'agit des pierres précieuses et de leurs vertus. Albert se trouve ici confronté à une littérature surabondante, la littérature des lapidaires. La littérature des lapidaires, qui existe depuis certainement l'Antiquité alexandrine, n'est pas une tradition de minéralogie. Ce sont des traités qui se consacrent aux pierres curieuses, précieuses ou fabuleuses, et à leurs vertus médico-magiques. Ce qui compte dans les lapidaires, ce ne sont pas les naturés, ce sont les virtutes. Ceci est bon pour cela, il y a des pierres qui rendent les femmes fidèles, il n'y en a pas qui rendent les hommes fidèles, n'est-ce pas ? Il y a des pierres qui font gagner des procès, il y en a qui rendent invisibles, etc. Que va faire Albert avec tout cela ? D'abord, il va appliquer un esprit critique en enlevant tout ce qui est manifestement superstitieux. Et deuxièmement, pour le reste, il va donner une interprétation aristotélicienne. Quelle interprétation aristotélicienne ? Par la forme substantielle. Je vous ai dit qu'il y avait quatre causes, la cause matérielle, la cause efficiente, la cause formelle et la cause finale. La cause finale, c'est la grandeur de Dieu, donc on n'a pas besoin d'en parler ici. Bon, eh bien, qu'est-ce que c'est ? que la forme substantielle, la substance, c'est l'identité d'une chose qui persiste malgré les changements. Et la forme, c'est l'ensemble des propriétés de cette substance qui se dégage par abstraction. Et donc, les effets ne sont pas liés à la matière des pierres, mais sont liés à leur forme substantielle. Il y a donc là une intégration de cette pensée magique, criblée, filtrée, mais non pas contestée dans un schéma aristotélicien grâce aux formes substantielles. Il faudra faire un jour l'histoire des formes substantielles en Occident. N'oubliez pas que c'est la forme substantielle qui servira au XVIe siècle à justifier le dogme de l'Eucharistie en disant que si le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ, ce n'est pas un changement dans la matière, mais dans la forme substantielle. Et c'est l'attaque contre la forme substantielle au XVIIe siècle qui sera notamment une des causes du procès de Galilée. Mais je ferme la digression. Donc bref, il aborde ici un deuxième, il intègre dans sa perspective une masse de lectures tirées des lapidaires en les intégrant, en les rattachant à la forme substantielle. Mais le cas est encore plus grave dans ce livre 2, lorsqu'il s'agit des lapidaires de pierres gravées. Vous savez que le Moyen-Âge a beaucoup récupéré les intailles antiques, c'est-à-dire les pierres précieuses. Et il a beaucoup récupéré les intailles et les a considérées comme des produits de la nature. À l'inverse, ils ont fait graver de figures astrologiques les pierres précieuses. Ils ont fait graver des pierres et de figures astrologiques pour en fabriquer des talismans. C'est un domaine qui a été bien étudié par M. Veiparo. Eh bien, qui a été très bien étudié, n'est-ce pas, par M. Veiparo. Là, Albert va en donner une explication astrologique en disant « Il y a là une science spéciale, il y a une influence des astres qui peut être matérialisée, concrétisée dans ces pierres. » J'en viens maintenant à la génération des métaux. La génération des métaux va vous montrer le même problème. Sur les métaux, il y a, qu'a-t-il à sa disposition ? Il a la masse toute considérable de la littérature alchimique, qu'il a lue en détail. Et il a d'autre part ce petit texte d'Aristote, de ce petit texte d'Avicenne, ajouté au météorologique, qui dit que les métaux sont produits par le soufre et le mercure. Une matière volatile, fusible, liquide, le mercure, responsable de la fusibilité des métaux et des propriétés caractéristiques de l'état métallique, et une matière combustible, le soufre, responsable de ce que nous appellerions aujourd'hui l'oxydabilité. C'est classique chez les alchimistes depuis au moins le VIe siècle de notre ère. Que va faire Albert par rapport à la théorie classique d'Aristote, qui nous dit que les métaux, comme toute matière, sont constitués des quatre éléments, et que les métaux les plus fusibles contiennent plus d'eau, et les métaux les moins fusibles, comme le fer, contiennent plus de terre. Et donc, il va s'efforcer d'élaborer ici une solution de compromis en distinguant la cause lointaine, qui sont les quatre éléments, la causa remota, et la cause prochaine, qui sont le soufre et le mercure, étant eux-mêmes constitués par les quatre éléments. Donc il y a bel et bien dans les métaux les quatre éléments d'Aristote, mais ces quatre éléments apparaissent dans les métaux sous une forme spéciale, une forme plus fusible qui est le soufre, qui est le mercure, et une forme plus combustible qui est le soufre. Conciliation, donc, entre des lectures alchimiques mûries, triées, pesées, et d'autre part, les principes généraux de la doctrine aristotélicienne. Et à l'appui de cette théorie, Albert va nous déverser une foule d'observations techniques qu'il a glanées d'un peu partout en Allemagne. En fait, n'est-ce pas, nous sommes en Allemagne à ce moment-là dans une période privilégiée. C'est l'époque du boom des exploitations minières. C'est le début des exploitations de Saxe, Freiberg, Annaberg, Chemnitz, qui vont devenir Joachimstal, qui vont devenir les hauts lieux de l'industrie minière au XVIe siècle. C'est l'époque où on exploite les schistes cuprifères de Mansfeld. C'est l'époque où on se met à chercher l'or du Rhin en orpaillant, n'est-ce pas, en faisant l'orpaillage dans le Haut-Rhin du côté de Bâle. C'est l'époque où on fabrique, c'est la grande époque de la fabrication du laiton à Cologne avec la calamine de la vieille montagne. Tout cela est intégré par Albert le Grand dans son schéma général de production, de génération de production et de transformation des métaux. On le voit, il y a là, nous sommes toujours ad mentem aristotélis, c'est-à-dire dans les cadres généraux de la doctrine aristotélicienne, mais les faits, les fiches, les observations sont agencées pour créer une œuvre originale. Et j'en viens maintenant à ma troisième et dernière partie, qui est de voir la destinée de ces fichiers. La destinée de ces fichiers, ce que sont devenus les fichiers d'Albert. Et je vais formuler ici une hypothèse, c'est qu'ils ont été réorganisés par ses disciples, peut-être même par lui-même, et laissés à l'état brut, ils ont donné naissance à des œuvres qui n'étaient certainement pas dans l'esprit du docteur universel. Je prends deux exemples. Le premier, c'est un petit traité d'alchimie qui s'appelle « Le sentier droit ». Semita Recta. C'est un des plus beaux, je n'ai pas besoin d'écrire, c'est un des plus beaux traités d'alchimie du Moyen-Âge. L'auteur vous explique dans un style rationnel quelles sont les difficultés de l'art, quels sont les outils dont on a besoin, quelles sont les opérations fondamentales, et ensuite quelles sont les premières transformations des substances, comme par exemple la fabrication du plomb en minium, la fabrication de la transformation du minium en céruse, le retour de la céruse au plomb par réduction, et des choses de ce genre, les teintures des métaux, les teintures des métaux par les substances volatiles, le mercure, l'arsenic, le sel ammoniaque, tout cela dans une perspective extrêmement positive. Or, de quoi s'agit-il ? Il s'agit des fiches du déminéralibus réorganisées dans un autre ordre. Il y a une concordance entre la doctrine fondamentale de la Semita Recta, donc du sentier droit, entre cette doctrine fondamentale qui est la doctrine de génération des métaux qu'Aristote, que Albert a adapté d'Aristote et d'Avicenne, et d'autre part une practica qui est tirée des opérations alchimiques citées dans les exemples du traité des minéraux. Un fichier laissé à lui-même, réorganisé dans un autre ordre, et qui devient un traité d'alchimie indépendant. Et Albert restera pendant des années avec une réputation d'alchimiste. L'a-t-il été ? Ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est la continuité albertienne dans ses écrits. Et le deuxième exemple est plus singulier, et il me permet de clore en bouclant la boucle. Madame Dralans vient de publier dans la collection de Micrologus un très bel ouvrage. Qui s'appelle le Liber Aggregationis, c'est-à-dire le livre de la compilation, Liber de Virtutibus Herbarum Lapidum et Animalium, le livre des vertus des pierres, des herbes et des animaux. C'est, n'est-ce pas, parfaitement un traité de plantes ou de pierres magiques. Voici la pierre de corail. Si vous voulez calmer le mauvais temps et traverser les fleuves, prenez la pierre qu'on appelle corail. Elle est rouge, il en existe une autre blanche. Et ceci a été éprouvé qu'aussitôt elle retient le sang. Et si on place la dite pierre dans l'or, elle provoque la bêtise et empêche la sagesse. Et ceci a été éprouvé par certains en notre temps. Et elle agit contre le mauvais temps et les dangers des fleuves. Même chose pour les plantes, même chose pour les animaux. Dans ce livre, au moins le traité des pierres correspond au catalogue alphabétique de pierres précieuses qui forme le livre 2 du De Mineralibus. Nous avons ici un fichier, non, ce n'est pas un dérivé du De Mineralibus. Nous avons un fichier qui a reconquis son autonomie, qui n'a pas été élagué des superstitions, qui n'a pas été mis en accord avec l'aristotélisme, qui est un fichier sauvage qui vit d'une vie autonome. Il se complète d'un livre sur les animaux, inspiré des cyranides, qu'Albert connaît, mais dont il se méfie. C'est un recueil de magie, des animaux, de magie talismanique de l'époque alexandrine. Et il se complète d'un herbier astrologique, ce dont Albert se méfiait tout autant, mais qu'il a connu. Dans la suite, ce Liber Aggregationis va se compléter de deux autres ouvrages. Il va se compléter d'un livre sur les secrets des femmes, où il y a bel et bien des sur la génération, sur l'embryon et sur l'accouchement, où il y a bel et bien des éléments qui viennent de l'œuvre physiologique d'Albert. Et il va se compléter d'un traité De Mirabilibus Mundi sur les merveilles du monde, qui, lui, est un recueil de magie talismanique, de charme et de conjuration. Bref, on voit que par un processus d'accrétion se constitue ainsi un ouvrage étranger à la pensée d'Albert, mais qui aura une destinée considérable, puisque ses trois parties, le livre Liber Aggregationis, Les merveilles du monde et les secrets des femmes vont constituer le noyau des admirables secrets du grand Albert et le noyau de cette littérature magique que les colporteurs et les magiciens de village vont populariser. On le voit, l'influence d'Albert le Grand est double. D'une part, comme puissant relais d'Aristote en Occident, il a fécondé l'étude systématique du monde végétal, animal, minéral. Et son influence sera considérable chez les botanistes, les zoologistes, les minéralogistes de la Renaissance. Mais d'autre part, ces fichiers, livrés à eux-mêmes par leur destinée capricieuse, ont joué un grand rôle dans la culture populaire de l'Occident. Je vous remercie.
Merci beaucoup, comme d'habitude, Robert Halleux. J'ai oublié de dire que ton dernier ouvrage est Le savoir de la main. C'est celui-là. Hein, donc, je vais le passer dans la salle pour que les personnes le voient. Et je demanderai une dédicace pour l'Espace Mendès France, parce que tu ne l'as pas encore fait. Merci beaucoup, c'était superbe. Des questions dans la salle ?
Merci beaucoup pour vos présentations. Je me posais une question par rapport à tout ce que vous racontiez sur le rapport d'Albert avec Aristote, Avicenne, Pline, qui est quand même vu plus prudemment, sa propre expérience. Est-ce que lui-même théorise, ou est-ce qu'on peut, à la lecture de ses œuvres, sentir une théorie des autorités et d'un rapport à l'autorité, ou clairement, d'ailleurs à l'expérimentation, enfin, qui s'en détache.
Alors, il y a pour lui une autorité qui est Aristote. Pour lui, Aristote, et je ne dirais pas qu'il donne raison à Aristote en tout, il connaît les aléas de la transmission, il connaît les lacunes de l'œuvre, mais l'autorité, le modèle, le maître, c'est Aristote. Aristote est relayé par le commentateur, notamment dans l'histoire des animaux. La physiologie d'Albert doit beaucoup à la physiologie d'Avicenne. Il a lu et intégré le canon d'Avicenne et, par exemple, ses théories de la sexualité sont délibérément avicenniennes. Pour tout le reste, il pratique une méfiance radicale. Vis-à-vis des lapidaires, vis-à-vis de la littérature astrologique, vis-à-vis de tout ce qui lui paraît, c'est simple. N'oubliez pas qu'Aristote est d'abord un grand rationaliste, et probablement même un athée, n'est-ce pas ? C'est d'abord un grand rationaliste. On a eu beaucoup de mal à le christianiser. Et donc, pour lui, tout ce qui sort, pour Aristote, tout s'explique par des causes naturelles. Et pour Albert aussi. Et donc, tout ce qui sort de la norme de l'aristotélisme suscite chez lui une saine méfiance. N'est-ce pas par exemple, le cas est magnifique à propos des gemmes gravées et des intailles qui ont été étudiées par M. Vaiparo. Ben, Albert essaye de donner une explication, mais c'est typiquement le genre de choses qu'il n'aime pas du tout. Donc, en réalité, c'est un grand rationaliste dans l'esprit aristotélicien et avicennien. Avec une admiration très chrétienne de l'œuvre du Créateur, ce qui est normal.
Robert, je voulais savoir, qu'est-ce qu'on sait de la diffusion de ces œuvres au Moyen-Âge ?
La diffusion est énorme. Quand on n'a pas, même pour les apocryphes, je ne sais pas combien de Ralans sont de manuscrits ici, mais il y en a plus d'une centaine là, pour le Liber Aggregationis. Donc, il ne faut pas oublier que Albert va devenir un classique. C'est-à-dire que Thomas et Albert vont être les classiques des écoles. Et comme personne ne poussera aussi loin la philosophia naturaliste qu'Albert, eh bien, tout le monde va faire de l'Albert. Et donc, on en a des copies et des copies et des copies. Soit des copies complètes, soit des extraits faits dans un but très précis. Et donc, il ne faut pas oublier, les éditions incunables vont prendre le relais. Les éditions incunables vont prendre le relais et Albert sera très lu, n'est-ce pas, tant qu'on fera de la scolastique. Tant qu'on fera de la scolastique, et ses apocryphes vont connaître une diffusion, elle, qui est tout à fait fabuleuse. Notamment, le livre des secrets, les secrets d'Albert, vont, n'est-ce pas, être notamment traduits en anglais. Il y a une édition par Brightman et Best, The Book of Secrets of Albert the Great, et vont être traduits dans toutes les langues. Et autour de ces apocryphes va se créer évidemment toute une légende. Il y a un livre allemand qui dit que Albert le Grand, il connaît tellement bien les problèmes de la génération qu'il a été accoucheur. Ils disent même qu'il a été sage-femme, Hebamme, qu'il a été sage-femme, n'est-ce pas ? Donc c'est un homme qui a passé pour connaître tous les métiers, et très tôt s'est répandu son titre de docteur universel comme docteur angélique pour Saint-Thomas d'Aquin.
Oui, Robert, comment tu dirais en deux mots le lien entre le naturaliste et le théologien dans l'œuvre d'Albert le Grand ?
Ah, il n'y a pas de... Spidouze avait bien raison quand il disait qu'Albert le Grand n'avait pas pratiqué la double vérité. N'a pas pratiqué la double vérité, on connaît la théorie de la double vérité chez Boèce de Dacy et chez un certain nombre de scolastiques au XIIIe siècle. Double vérité, c'est en matière de nature, je crois Aristote, et en matière de religion, je crois la Bible. S'il y a des contradictions, je m'en occupe surtout pas. Pour Albert, il n'y a pas ça. Il y a une vision unitaire qui sont les merveilles du Créateur. Et le Créateur a organisé tout cela. Et l'œuvre du naturaliste, c'est de découvrir le plan de Dieu dans la nature. Il ne s'est jamais posé cette question, n'est-ce pas, d'une contradiction, même en matière d'astronomie ou d'astrologie, ce que se posaient à ce moment-là notamment les averroïstes de Paris.
Pour autant qu'on puisse le deviner, est-ce que justement cette dualité évitée, enfin, comment est-ce qu'il présentait son œuvre ? Il a été professeur, il a été enseignant.
Il a été professeur de théologie et de philosophie naturelle.
Ah oui, donc on peut imaginer qu'il développait son enseignement un peu sur ces deux registres-là. Ou alors
c'est un seul registre, monsieur. Oui. C'est un seul registre.
Un seul registre.
C'est-à-dire que pour Aristote, c'est un seul registre. Il y a là une étude ordonnée et structurée où l'on commence par apprendre les outils, c'est-à-dire les études de logique. Et puis, on étudie ce qu'on appelle la physica, c'est-à-dire la philosophie naturelle. Et puis, on étudie l'éthique, et puis la métaphysique, c'est-à-dire la science des premiers principes, et l'on débouche ainsi naturellement dans la théologie. Et donc, il n'y a pas, c'est un anachronisme pour nous, de supposer une rupture entre pensée théologique et pensée scientifique chez Albert le Grand. Il se voit simplement, et il le dit à plusieurs reprises, n'est-ce pas ? Il se voit simplement comme un descripteur, comme un homme qui étudie l'œuvre de Dieu dans la nature. Et ceci dit, il ne fait pas intervenir, n'est-ce pas ? Il y a très peu de miraculeux ici, tout s'explique parfaitement par les causes naturelles. Encore que, dans certains cas, il explique clairement que certaines actions ne peuvent être dues qu'à la magie, noire et à l'intervention des mauvais esprits. Donc là, il distingue très bien la sphère du naturel et la sphère du surnaturel. Même si la sphère du naturel, chez Albert, est très large. Et les naturalistes italiens du XVIe siècle s'en souviendront, n'est-ce pas, des gens comme Pomponazzi ou comme Vanini se souviendront parfaitement d'Albert le Grand pour expliquer un certain nombre de phénomènes, pour expliquer par la nature un certain nombre de phénomènes que les théologiens tenaient pour miraculeux. Mais là, c'est une utilisation d'Albert que lui n'aurait pas voulu.
Et saint Thomas, comment a-t-il hérité ?
C'est très différent. C'est son élève, n'est-ce pas ? C'est son élève chéri. C'est son élève favori et il y a une histoire très belle. On dit que quand Albert était à Cologne, siégeant avec ses frères en 1274, à un moment, il a fondu en larmes. Et on lui a demandé pourquoi, et il a dit « Notre cher frère Thomas est mort ». Donc, il y a entre les deux une relation filiale. Mais ils ne font pas la même chose. Ils ne font pas le même projet, n'est-ce pas ? Saint Albert le Grand s'efforce de faire coller l'aristotélisme avec la nature. Saint Thomas s'efforce de comprendre, d'intégrer l'aristotélisme au dogme chrétien. Si vous voulez, ce sont deux œuvres complémentaires dont l'une a en quelque sorte préparé l'autre. Mais c'était son élève préféré, n'est-ce pas ? C'est lui qui l'a distingué, c'est Albert qui l'a mis en valeur, alors que à cause de son aspect un peu bovin, Saint Thomas était considéré un peu comme la risée de ses condisciples. C'est Albert qui l'a toujours privilégié et qui l'a poussé, et qui même lorsque Thomas a été attaqué, est intervenu pour le défendre.
Non, parmi ces sources, vous citez, apparemment, Isidore de Séville n'apparaît pas.
Isidore, il est partout. Tout simplement parce qu'Isidore, il est tellement partout que je ne l'ai pas cité. Parce que Isidore, n'oubliez pas que pendant tout le Moyen-Âge, Isidore est la base de la terminologie et de la nomenclature, n'est-ce pas ? Pour les noms des animaux, l'explication des noms des animaux, l'explication des noms des plantes, Isidore est la base de toutes les synonymies, de tous les dictionnaires. Et donc, naturellement, Albert sait très bien que les éléments d'histoire naturelle qui se trouvent chez Isidore viennent de Pline et de Solin, mais pour ses recherches étymologiques et pour l'explication des noms, comme il n'a rien d'autre à utiliser, Isidore intervient tout le temps. Et l'œuvre d'Isidore, si étrange qu'elle nous paraisse aujourd'hui, n'est-ce pas, va rester la base de tout enseignement lexicographique jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'au XVIe en tout cas. Oui, je vous en prie.
C'est concernant la postérité d'Albert le Grand. Au niveau de la postérité des études scientifiques, vous citez le XVIe siècle qui s'en nourrit. Est-ce que dans la biologie, on va dire moderne, à partir du XVIIIe siècle, Buffon, et puis après ce qui poursuit, même est-ce que jusqu'à Linné, Lamarck, Darwin.
Non, il est oublié là. Là, il est oublié. Et ce sont des biologistes du XIXe siècle, des zoologistes et des botanistes surtout, qui l'ont relu et qui ont dit mon Dieu, comme c'est bien observé. Mm-hmm. Mais ils l'ont considéré comme un pur descripteur, si vous voulez, comme un taxonomiste, hein, ou un homme qui décrit les animaux. Ils ont dit mon Dieu, comme c'est bien observé. Mais au siècle des Lumières, il est parfaitement oublié. Hein, il appartient aux siècles obscurs. Si vous voulez, il a encore une grande influence, par exemple, chez un naturaliste comme Conrad Gessner au XVIe siècle, sur Ulysse Aldrovandi. Hein, mais à partir du moment où on a les nouvelles classifications botaniques et zoologiques, là, il est complètement oublié. Complètement oublié. Et il est redécouvert avec attendrissement par des biologistes du XIXe siècle qui aiment bien trouver des précurseurs. Pas d'autres questions.
Merci encore, Robert Halleux.